Aujourd'hui, Romain, t'as un sujet.
Ah non, ça c'est sûr que non. D'ailleurs, on m'a proposé un sujet et je le comprends toujours pas avant même de démarrer ce podcast.
On va parler de quoi aujourd'hui, Manuel ?
Attends, mais il est
toujours
pas prêt.
La latence, voilà, parce qu'il faut savoir que Manuel est à San Francisco actuellement. Donc il y a toujours la petite latence, comme avec les journalistes. Manuel, how are you ?
On va parler d'autodéterminisme.
Est-ce que, Romain demandait avant l'épisode, est-ce que ça a un rapport avec l'automobile ?
Aucun.
C'est faux, j'ai jamais demandé ça.
Si, c'est vrai.
Non mais c'est pas un mot qu'on utilise souvent, l'autodéterminisme.
Non, ça c'est sûr qu'on l'utilise assez rarement finalement dans les conversations. Hein.
Bah c'est dommage.
T'aimerais qu'on l'utilise plus souvent ?
Bah j'aimerais que les gens l'utilisent plus souvent, ça les aiderait en fait.
Et du coup qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est la capacité à décider par soi-même et pour soi-même. C'est très dur en fait quand on y réfléchit.
Parce que ça paraît extrêmement simple quand tu le dis.
C'est simple à comprendre, c'est difficile à faire. C'est-à-dire que la quantité de choix, de décisions que tu prends dans ta vie qui ne sont en fait pas les tiens, est assez astronomique quand tu y réfléchis.
Ah bon ?
Mais quand tu les prends, t'as l'impression qu'ils viennent totalement de toi.
Évidemment. Et t'en es même convaincu.
Ok.
Mais la réalité, c'est que tu es le fruit de la civilisation dans laquelle tu es né, de ton héritage social et sociétal, des traditions de ta famille, des attentes de ton entourage, etc., etc. Et on peut empiler cette liste longtemps. Et c'est très difficile d'être totalement libre.
Donc,
décider pour soi, par soi, en âme et conscience, c'est en réalité très difficile.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Donc plus que la simple action de décider par soi-même, faut déjà comprendre qu'est-ce qui motive tes actions ? Et ça, c'est extrêmement difficile parce que tu as forcément l'impression que quand tu fais quelque chose, ça vient de toi. Comment tu détermines ce qui t'a poussé à faire quelque chose, à faire une action, à opérer un changement ?
Déjà, il faut prendre conscience du fait que tes choix sont le fruit de qui tu es et de ce que tu sais.
Ouais.
Et c'est la combinaison des deux.
Ouais.
C'est à la fois ton processus intellectuel, ce que tu sais, et à la fois qui tu es.
Mmh.
Et c'est cette combinaison qui t'amène à faire certains choix. Et certains de tes choix sont plus drivés par qui tu es que par ce que tu sais.
Ouais.
Mais dans le qui tu es, tu as l'héritage de tout ce qui t'entoure.
Ouais.
À un moment, je vais m'imposer. Pour l'instant, je comprends toujours pas. Donc, je vous laisse.
Mais la limite est hyper.
Je pense qu'on va être tranquille.
La limite est hyper fine entre une décision qui relève de l'autodéterminisme et une décision qui relève d'une influence extérieur, parce que c'est les décisions que tu prends.
Vous me faites chier, les gars, je comprends rien.
Les décisions que tu prends sont forcément influencées par ton entourage, ton environnement, quelque part.
Hein? Alors, oui, évidemment.
C'est insupportable.
Non, mais c'est pas grave, coupe ton micro. évidemment, mais le tout, c'est d'en être conscient.
Okay.
C'est pas extrêmement grave de prendre une option ou de faire un choix qui n'est pas véritablement ton choix, mais qui est une espèce de manque de courage par rapport à d'où tu viens, qui tu es, ce qu'on t'a appris, ce que tu reproduis par tradition, par habitude, par mimétisme,
okay.
À partir du moment où tu le sais, en fait.
Okay.
Et à partir du moment où tu peux vivre avec le fait que ce choix n'est pas véritablement le tien, mais plutôt le fruit de ton contexte ou des attentes autour de toi. Si tu vis avec, il n'y a pas de problème. Mmh. Ceci dit, il y a un indice qui est toujours intéressant. C'est que plus un choix est difficile, plus il est vrai.
Okay.
Plus un choix est rude, plus une décision est rude à prendre, plus la liste des gens que tu peux potentiellement rabrouer un peu, on va dire, bousculé dans tes choix, plus il y a de chances que ce choix soit le tien, ouais, véritablement
donc,
le tien.
Donc si tu fais un choix qui est clivant, il y a de grandes chances pour qu'il soit autodéterministe.
Fatalement. Les gens, bon, il faudrait aller dans les détails, mais il y a le soi, le concept de soi, etc., etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, sinon on va perdre Romain complètement. Déjà,
y a non, plus... mais moi je suis déjà dedans avec vous, il y a pas de problème. Non, vous pouvez.
Déjà, quand on le regarde, il faut quand même savoir qu'on ne voit plus de pupilles, il y a plus que du blanc dans les yeux, en fait.
Non, mais je comprends que tu vas plus loin, Manuel, dans une réflexion que t'as beaucoup, et c'est souvent même là-dessus que tu juges les gens que tu connais pas beaucoup dans un premier temps. C'est sur ce qu'ils vont être capables de faire. Pour être aligné avec leurs objectifs, ce qu'ils ont envie vraiment de réaliser, etc. Et le truc qui te rend le plus fou, pour le dire, c'est les gens qui essaient de se raconter une vie ou de se trouver des excuses tout le temps en disant « Non mais là, c'est parce qu'il était que là maintenant, après je le vois plus, donc il faut que j'accepte ça, donc ceci, cela. » Et ils se laissent embarquer dans plein de décisions que tu prends par automatisme.
Moi, je résume ça très vite, hein, c'est les gens qui se trouvent des excuses.
Mais on a parlé plein de fois de ça, de l'influence, de l'entourage, etc., du fait de ne pas vraiment prendre les décisions qu'on aurait envie de prendre. Du coup, l'autodéterminisme, c'est quoi? C'est une compétence?
Bah, ça se travaille, ça se cultive, en fait. Si on veut simplifier le message à mort pour ramener Romain avec nous,
merci.
C'est plutôt de dire « je ne veux pas que ma vie soit dictée par ce que les gens attendent de moi. Je veux que ma vie soit dictée par... » ce que j'ai envie de faire profondément. Ma passion, mes envies, mes projets, etc., etc. Je n'ai pas envie d'être un élève, je ne suis plus un enfant, et je ne suis pas là pour satisfaire à la règle ou satisfaire aux attentes des autres.
C'est bon, j'ai compris pourquoi je ne comprenais pas.
À partir du moment où tu es maintenant, tu es devenu un adulte, tu dois t'émanciper de ce qu'on t'a appris, tu dois le garder, évidemment. Y a des valeurs importantes là-dedans. Éducative, etc., etc. Tu dois garder ça. Tu dois garder ce qui t'a construit, ce qui t'a bâti, ce qui t'a constitué. Mais tu dois aussi t'émanciper des attentes des autres.
Ok.
Je comprenais pas ça parce que, en fait, je me suis battu très tôt contre le regard des autres ou ce qu'on voulait pour moi. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre ce truc de me dire, mais attends, je comprends pas. Enfin, si t'es persuadé de quelque chose, si t'as envie d'aller de l'avant, si t'as envie de te réaliser dans ces domaines, etc. Pourquoi est-ce que ton entourage jouerait dans tes décisions?
Ouais, toi, t'as un autodéterminisme un peu extrême.
Je sais pas comment vous pourrez le. Enfin, vous êtes les deux personnes les plus proches. Mais oui, je ne sais pas ce que c'est que de parfois faire un tout petit peu attention à l'autre. Donc, moi, c'est d'abord moi, ma route. Et ensuite, s'il y a des options à côté et si elles logent parfaitement trop bien. Bah sinon, c'est juste que je serai tout seul. Et c'est pas grave, moi ça me va très bien.
Moi, ce qui me préoccupe beaucoup pour pas mal de gens, parce que je vois des gens qui deviennent un peu malheureux, parce que quand tu fais ça, en réalité, tu mets un bal dans la machine qui va nourrir de la frustration et qui va te conduire à une forme de déprime à un moment ou à un autre, parce que de toute façon, tu rencontreras à un moment la réalité.
Ouais.
Tu devras faire face à toi-même et tu te diras « Mais merde, j'aurais pas fait ça, je le referai pas comme ça, etc. » Et là, c'est la machine des regrets qui commence à s'ouvrir. Et alors là, c'est comme quand la merde atteint le ventilateur, il y en a pour tout le monde.
Bien, celle-là.
Donc, il faut surtout pas nourrir les regrets.
Ouais.
Et malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand ils sont face à des décisions importantes pour eux, qui laissent entrer des paramètres qui ne sont pas des paramètres intrinsèques, qui ne sont pas des paramètres qui leur sont propres, mais des paramètres extérieurs, entrer en jeu dans leur processus décisionnel. Et j'ai vu trop de gens malheureux ou regretter cela tard, et là c'est dévastateur.
Mais le problème, c'est que quand tu lis ce genre de conseils, ça te paraît évident, tu dis « Waouh, ça y est, j'ai compris un truc, ça va changer ma vie ». Mais comment tu l'appliques dans le monde réel?
C'est surtout que parfois tu peux l'appliquer mais mal. Tu peux prendre des décisions en te disant « Non, mais ça c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire, pour une fois je m'écoute, je le fais autre. » Et en fait, c'est pas du tout rationnel. Si tu mets vraiment ton choix dans un tableau Google Sheet et que tu mets les pour et les contre, tu t'aperçois que c'est une grosse connerie pour le timing dans lequel tu es, la vie que tu mènes, etc. Donc moi, j'aime pas du tout les gens qui pensent avoir compris ce discours. et qui te disent en gros ah ben on n'a qu'une vie, ah ben alors je fais ça, moi oui, je m'écoute.
Tu peux mal l'interpréter.
Exactement, c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est juste essayer d'éviter un maximum les paramètres extérieurs pour prendre tes décisions.
Moi je pense qu'un des premiers éléments qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, c'est le niveau de sacrifice que tu vas t'employer à mettre dans un choix. Quand tu commences à faire quelque chose parce que tu le dois et pas parce que tu as envie de le faire, c'est un bon indice qu'il y a un petit problème.
Ouais, mais ça c'est pareil, c'est à nuancer, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit faire sans en avoir envie.
Bien sûr, mais quand il s'agit d'un choix qui est personnel, je sais pas moi, une orientation de carrière, des priorités dans ta vie, un endroit où tu veux vivre, enfin j'en sais rien,
religion, n'importe quoi.
Ouais, alors ça c'est déjà un autre sujet. Parce
non, mais s'il y a un héritage familial et que toi tu te retrouves pas du tout là-dedans,
oui,
ça peut être un choix très compliqué à faire.
Par exemple.
Parce que pour le coup, t'as une responsabilité qui est énorme de ne pas adopter, je sais pas, la religion de tes parents. Mais si tu te retrouves vraiment pas dans ces valeurs, j'imagine que là, l'autodéterminisme, il joue un rôle fondamental.
Bah exactement. Et c'est pour ça que je donne souvent cette astuce. Je dis, essaye de réfléchir en te disant, est-ce que je fais ça parce que je le dois? Je le dois à quelqu'un, je ne veux pas décevoir quelqu'un, ou je sais pas quoi. Mmh. Ou est-ce que parce que c'est véritablement ce que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai pas de recette magique. Hein. Je sais pas s'il en existe, ça m'étonnerait. J'ai beaucoup cherché et lu sur ces questions. Mais il y a des faisceaux d'indices. Et ça, c'en est un, en fait.
Ok, t'en as d'autres ?
J'en ai d'autres.
Le retour des listes de manuels.
Le deuxième élément, c'est le rapport au temps. On est beaucoup drivé par le court terme.
Okay.
On prend des décisions pour se soulager d'un problème. On veut prendre une décision urgente, non pas parce que c'est la bonne décision, mais parce qu'on ne veut plus souffrir de cette question.
Okay.
Ça, c'est aussi un deuxième critère, que tu n'es pas en train d'être drivé par ton autodéterminisme, c'est-à-dire ton vrai choix profond. À partir du moment où tu prends une décision qui te soulage d'un problème immédiatement, comme un drogué prend sa dose parce qu'il est dépendant d'un produit qui le soulage, dis-toi qu'il y a véritablement ou vraisemblablement un problème avec ce choix.
Ouais.
Et on a du mal à raisonner long terme. C'est difficile, parce que le long terme, il y a plein d'hypothèses. Ouais. Tu n'as pas de garantie de résultat. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais pas si c'est la bonne option ou pas la bonne option. Tu vois, ça demande de la projection. Sur le court terme, tu résous un problème immédiatement. Tu as la garantie que ta décision a un impact tout de suite.
Là, on parlait dans le dernier podcast de la dopamine. C'est exactement ça. Mmh. Quand tu sens que tu as envie de sucre, effectivement, c'est soulageant d'aller dans le placard de la cuisine chercher du chocolat. Ça règle un problème sur le moment. Par contre, sur le long terme, si tu tenais un régime qui consiste à te séparer du sucre, bah effectivement, pour le projet, c'est un peu plus compliqué. Mmh.
Pour donner un exemple concret sur la nourriture toujours, le cheat meal, je trouve que c'est chouette de le faire quand tu l'as programmé. Si tu te dis là, maintenant, tout de suite, j'ai envie d'un cheat meal, machin, je vais me faire plaisir ce soir et tout, juste le fait de remettre ça au lendemain ou au surlendemain, ça fait que tu prends conscience que ça va vraiment être un plaisir et que tu vas vraiment bien vivre le moment plutôt que de le faire tout de suite pour te soulager.
Ouais.
Juste le fait de le programmer. Et pour moi, ça va aussi avec le fait de faire la différence entre une décision que tu peux prendre tout de suite parce que ça ne changera pas le cours de demain, etc., et que ça se fait en moins de 5 minutes, la fameuse astuce, ou alors le fait de se dire « Non, mais on le fait maintenant, comme ça, c'est fait. » Et parfois, moi, il y a plein de trucs, surtout dans le taf, où j'aime bien répondre « Non, non, là, c'est pas le bon moment, même si ça prend pas longtemps. » Parce que juste le fait qu'on se pose la question maintenant et qu'on mette plusieurs jours à réfléchir à la réponse sera bonne pour les prochains mois et prochaines années, etc. Et parfois, il y a des décisions qui sont chiantes à repousser parce que tu te dis, franchement, bon, on pourrait faire ça et tout, mais juste le fait de laisser un peu de temps, tu peux en parler à une autre personne et puis parfois, il se passe un truc dans ton contexte qui fait que tu peux...
Juste le fait de réagir à froid.
Exactement. Mais c'est une vraie différence entre repousser chaque chose que tu fais, etc., et du coup, te dire « Ah non, mais comme ça, j'y réfléchis vraiment et autres. » Ou alors, à l'inverse, de juste sélectionner les bonnes questions dans ton parcours pour pas y répondre à froid.
Un autre élément qui peut être un indice qui te laisse penser que tu vas sur la bonne voie ou pas, c'est la renonciation. Il n'y a pas de choix sans renonciation, en fait. Et le fait de matérialiser ce à quoi tu renonces est un élément important. Tout comme matérialiser ce à quoi tu accèdes dans un choix. Il y a de la renonciation. Je renonce à faire plaisir à un tel, à satisfaire à ce modèle, à être conforme à ce qu'on attend de moi, etc. mais j'accède à tout un tas d'autres éléments que je n'aurais pas eu si je ne faisais pas ce choix. Et le fait de matérialiser les deux est un élément important.
Vous avez déjà fait, pour prendre une décision, une liste de pour et de contre ?
Oui.
T'as déjà fait ça, toi, Manuel ? Même mentalement ?
Oui, bien sûr.
Je crois que j'ai jamais fait, mais c'est ça, en fait.
Oui, c'est un peu ça. Mais je pense que les gens font facilement la liste des pour, assez peu la liste des contre. Ouais. Ou en tout cas, c'est des contre très superficiels.
Ok.
Moi, quand je dis matérialiser vos renonciations, j'essaye d'inciter les gens à regarder en face ce à quoi ils vont véritablement renoncer, dans le fond. Mmh. Parce que beaucoup de gens se disent, je vais essayer de trouver la ligne médiane.
Ouais, ils veulent toujours l'entre-deux. Ouais,
donc
ouais.
Je vais faire ce choix, mais bon, je sais qu'avec ce choix va ce renoncement-là, ou cette renonciation-là, mais je vais me débrouiller pour quand même avoir un petit peu d'eux.
C'est pas radical.
Et ça, je trouve que c'est dommage. Moi, j'ai l'habitude de dire demi-choix égale emmerdement au carré.
Ouais.
Mais ce que fait souvent Manuel pour être sûr de sa bonne décision, c'est qu'il part du principe où c'est pas dangereux. J'aime beaucoup quand tu utilises ce mot parce que parfois, il y a des questions que je peux lui poser et autres et je lui dis non, mais attends, parce que là, quand même, il y a des problèmes et tout. Je dis attends, ta gueule, qu'est-ce qui est dangereux ? Le fait de tester ça là maintenant, de le faire, c'est quoi ? On va perdre ça et alors ? C'est pas dangereux. Oui, non, c'est vrai. Bah voilà, alors on le fait et puis on voit. Et genre, ça, c'est un truc assez déterminant, je trouve, le fait qu'à la fin de la fin, si une décision est très dure, tu te dis, bon, ok, mais est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que j'y joue ma vie ? Est-ce que j'y joue ma carrière entière ? Est-ce que j'y joue tout mon réseau ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que demain matin, je peux me réveiller, ma vie ressemble pas à ça ? Ah non, pas finalement, non. Bon, bah alors, tu peux déjà... Je trouve que de voir l'extrême à chaque fois, quand t'as du mal à prendre une décision, où au fond de toi, t'as cette petite voix qui te dit... Tu sais que c'est la bonne, mais t'as pas les couilles d'y aller parce qu'il y a tout un entourage qui fait que... voilà.
Mais est-ce qu'il y a plein de gens qui se prennent la tête aussi ? C'est pas un tweet de Drake, quoi. tu vois ? Ça, c'est définitif. C'est-à-dire tu vas vraiment passer pour un connard aux yeux du monde de façon définitive. Donc ça, c'est potentiellement dangereux. Ce qui est véritablement dangereux, c'est ce qui va te heurter profondément et qui est irréversible. Ce qui est dangereux, c'est ce qui te fait perdre un bras. Ce qui est dangereux, c'est un soldat au front. Ce qui est dangereux, c'est ce qui peut te faire mourir. Ce qui est dangereux, c'est ce qui te t'affaiblit. Le reste, c'est juste apprendre.
Et c'est une méthode justement que tu utilises beaucoup, Manuel, dans tes équipes, pour que tes équipes apprennent sans à chaque fois attendre la décision de Manuel, parce que si c'est Manuel qui drive ce sujet, etc. etc. Donc il y a parfois des trucs où je pouvais voir des choses qui se passaient pas forcément très bien, où on pouvait aider certaines personnes à ce moment-là parce qu'on avait la réponse pour que ça se règle bien. Ouais. Et Manuel levait la main et dit « Non, laisse les faire, ils vont se démerder, ils vont apprendre au milieu, de toute façon, à la fin de la fin, si ça marche pas, c'est pas dangereux. » Tu fais « Waouh !» Et en fait, c'est vrai que c'est trop bien parce qu'il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre que de se planter. Et si à chaque fois, tu dois lever la main en disant « Ah, s'il vous plaît, monsieur, c'est la bonne réponse », c'est un enfer, tu t'avances pas dans le business. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert là-dessus. Quoi.
Bah, ça veut dire que tu innoves jamais, en fait. C'est-à-dire que tu prends jamais le risque.
Mais c'est dur à faire.
Tu prends jamais le risque d'innover, surtout.
Vraiment, c'est très dur. Ouvre un mail où tu es en copie, tu as la bonne réponse pour régler tout le problème de la conversation et tu ne le fais pas parce que tu veux que ce soit tes équipes qui apprennent à le faire correctement toutes seules.
Ouais.
Fermer le mail pour te dire oh, on réouvrira dans 48 heures et ça va le faire. Il faut quand même voilà, savoir où tu avances et savoir ce qui est dangereux ou pas. Quoi.
Ben, si c'est le management en fait. Si c'est toi qui fais tout à la place des gens avec qui tu travailles, c'est plus du management.
Et je pense qu'il faut laisser les gens faire des erreurs. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent grandir. On n'a jamais vu un gamin courir avant de marcher, ça n'existe pas. Donc il faut les laisser en fait, il faut les laisser faire ça. Et à partir du moment où tu sais qu'ils vont pas mourir, laisse-les. Et même laisse-les tomber, laisse-les s'écorcher les genoux. Voilà, passe de temps en temps mettre du mercurochrome et souffler et faire un bisou magique et tout ira bien. Mais à force de vouloir éviter les erreurs, t'en fais des gens qui sont extrêmement dépendants de leur ligne managériale ou de leur, des figures qui les drive en fait. Et donc du coup, t'as une organisation qui est une organisation qui est sur un modèle de conformité et pas sur un modèle de créativité et d'apprentissage. Mais c'est valable dans la vie.
Mais moi, j'allais te dire, c'est
ton
valable...
Ton boulot dans la vie,
oui.
C'est pas d'être conforme à quelque chose.
Ouais.
Et même
c'est pas d'être conforme, excuse-moi Romain, c'est pas d'être conforme à même ce qu'on pourrait appeler une forme de normalité. Il n'y a pas de normalité. La normalité, c'est la tienne. C'est celle qui fait du sens pour toi. Ma normalité n'est pas la même que la tienne, Romain, ou celle de Léo.
Oui, heureusement.
Tu m'étonnes. et donc, le but dans la vie n'est pas d'être conforme. Le problème, c'est qu'on nous éduque dans un schéma scolaire de conformité.
Ouais.
Bonne réponse, mauvaise réponse. Bon comportement, mauvais comportement.
Et même dans l'éducation, t'entends souvent, enfin moi en tout cas, j'entendais souvent dire « Ah ben va demander à ta mère, ah ben demande à ton père. » Ah ben genre comme s'il pouvait pas prendre une décision, c'est-à-dire que même au cœur de l'enfance, tu vois des trucs. Alors aujourd'hui dans notre génération, moins. Mais si tu parles déjà un peu aux anciens, t'as souvent le truc quand tu leur demandes quelque chose, c'est « Ah ben attends, j'en parle à ma femme, on va voir ce qu'on fait ce week-end. » Quelle horreur. Mais prends une enfin, si t'as envie de le faire, fais-le. Et puis tu dis juste à ton partenaire que tu vas faire ça ce week-end, quoi, si ça te plaît. Ouais, c'est un truc qui me rend fou.
C'est vrai que moi, je supportais pas à l'école l'absence de nuances. J'acceptais qu'on me dise non, mais je questionnais toujours la raison pour laquelle ça pouvait pas être un peu des deux, en fait.
Et t'étais casse-couille.
Complètement.
Ah, mais ça, c'est sûr. Léo Petit, quel enfer.
Il y a des profs qui m'ont viré du cours à cause de ça. Parce que il y a des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord. Et en fait, je leur disais, en fait, ça peut être un peu des deux. Et t'essayes d'avoir une discussion. Et en fait, tu te rends compte que souvent, les profs, il n'y a pas de discussion possible. Il y a un truc qui est écrit sur leur feuille, ça peut pas changer, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah oui, parce qu'il y a des programmes, parce que je comprends, hein, si tu veux, il y a quand même beaucoup de parents qui outsourcent l'éducation de leurs enfants à leurs profs, en fait. Donc l'éducation nationale ne peut pas tout faire. Elle peut instruire, mais elle ne peut pas, enfin de mon point de vue en tout cas, elle peut instruire, c'est le but, mais elle ne peut pas éduquer, c'est même pas souhaitable.
Oui. Mais c'est hyper frustrant parce que la vie, c'est pas ça, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis souvent marqué par la quantité de personnes qui essayent de driver leurs décisions et leurs choix par effet de normalité, par effet de conformité à un modèle.
Parce que c'est comme tout le monde l'aurait fait, quoi.
Parce qu'il faut surtout pas sortir des lignes, parce qu'il faut pas être celui qui a une voix différente, etc. Pourquoi ça me marque ? Ça me marque d'autant plus qu'on encense ceux qui n'ont pas suivi les règles. On encense les originaux. On encense les entrepreneurs qui n'ont pas fait comme les autres et qui ont raison à la fin. On encense ceux qui ont réussi contre le modèle de conformité, etc., etc. Pour autant, on ne les encense pas au moment où ils prennent ces décisions. On ne les encense pas sur le chemin. On ne les encense que quand ils sont arrivés.
Si ça a marché, oui.
Et ça rend du coup le compliment complètement sans fondement aucun.
Oui.
Les mecs qui te disent « Ah mais t'as eu raison !» Tu vois, combien de fois j'ai entendu « Mais t'as eu raison de créer ta boîte très jeune, à 18 ans, c'était super, machin, etc. » Mais ouais, mais c'est les... Alors, en l'occurrence, c'est pas les mêmes, mais ça pourrait être les mêmes qui me disaient à l'époque « Mais attends, t'es fou, quoi,
du coup,
ça n'a aucun sens. »
Il y a un sous-texte qui n'est pas assumé. Ce qu'ils devraient dire, c'est peut-être ce qu'ils ont envie de dire, même si je crois pas une seconde, c'est que t'as eu raison en étant toi, avec tes paramètres, et parce que t'as eu réussi. Parce que tu as réussi. Mais quelqu'un d'autre qui aurait pris cette décision aurait eu tort.
Oui, mais moi,
tu as eu raison de le faire parce que ça a marché.
Oui, mais dans ces cas-là,
ça
n'a aucun sens. En fait, si on ne rétribue que la réussite et pas le risque, c'est un problème. Moi, je voudrais qu'on soit dans un modèle où on encense les gens qui prennent du risque, les gens qui croient en leur passion, qui écoutent leur tête et leur cœur, qui font. Des choix qui sont en conformité avec ce qu'ils pensent profondément, qu'on arrête de juger par rapport à ce que fait la moyenne des gens, ou ce qu'on attend d'eux, ou ce qu'on espère d'eux. C'est pas ça le sujet. D'ailleurs, quand quelqu'un te demande un conseil, la question n'est pas de comparer sa décision à celle que tu aurais prise toi-même.
Ouais.
La question est de oublier ton propre point de vue, de questionner, d'aider l'autre à raisonner
à sa place
et à prendre la décision qui lui semble la meilleure pour lui-même. Mais c'est ça qui est difficile dans le monde du conseil.
Ouais.
J'ai fait 25 ans de conseil aux marques, aux grandes marques de cette planète. Je comprends ça. La question n'est pas mon point de vue. La question est de les aider à raisonner par rapport à qui ils sont, quels sont leurs objectifs, les moyens qu'ils mettent en œuvre pour y arriver, est-ce que c'est réaliste ou pas. La question n'est pas de satisfaire à ce que je pense d'eux.
Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du management et du fait de se retenir, de répondre à un mail, ouais, pour apporter une solution. Ça marche aussi dans ce cas-là. Peut-être que, par exemple, Manuel qui répond à un mail, sa réponse a du sens avec qui il est, c'est en accord avec sa personnalité, mais peut-être que s'il envoie à un employé, tiens, tu réponds ça, ça marche plus du tout avec la personnalité de l'employé à qui t'as envoyé ce message. En fait, ça dépend aussi beaucoup de qui tu es.
Et évidemment, parce que, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un de mes associés depuis 20 ans, ce qui compte n'est pas seulement ce que tu dis, mais ce qui compte, c'est d'où tu le dis.
Ouais.
Parce que le même message, porté par une personne différente, n'est pas du tout acceptable.
Ouais.
Ou au contraire, l'est totalement.
C'est une question de statut, de charisme, de position.
C'est un mélange de plusieurs paramètres, de ce que tu as fait, de qui tu es, de ton degré de détachement, d'humour, de, ouais, etc. C'est plein de paramètres qui font que le même message porté par deux personnes différentes n'est pas du tout perçu de la même façon.
Et surtout d'incarnation du message, en fait.
Bien sûr.
Tu peux très mal l'interpréter en le lisant et le raconter, ça peut être horrible. Par exemple, moi, si je raconte une blague de Bigard,
oui,
je suis pas sûr qu'elle soit très drôle. Après, quand Bigard raconte une blague de Bigard, c'est déjà pas très drôle.
Mais non, c'est sûr.
Je pense que tout ce que vous dites, ça va surtout aussi avec le regard des autres dont on a parlé plusieurs fois. Je pense que quand t'arrives vraiment à t'auto-déterminer, c'est que t'en as plus grand chose à foutre du regard des autres. Parce que quand tu parlais aussi de la société, etc., oui, aujourd'hui, une personne qui est salariée, elle a plus de chances d'avoir un prêt, de pouvoir avoir sa maison, son truc, etc., que la personne qui se fait chier à être entrepreneur, à avoir plus de risques, et donc c'est encore plus dur.
Ça demande énormément d'amour que d'aider les gens à être libres.
Ouais.
Je peux expliquer, je vois Romain froncer des yeux. Mmh. C'est facile de distribuer les bons et les mauvais points, de se comporter en juge et de dire « ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas ». La décision que tu viens de prendre, celle-là, elle est bien, celle-là, elle n'est pas bien. Ça, c'est très bien pour éduquer des enfants pendant l'enfance, pour leur apprendre les bases, les valeurs, les règles de conformité à la vie en société, etc., etc. Quand tu commences à arriver au-dessus de l'adolescence et au début de la vie adulte, la question, c'est de rendre les gens libres. Il vaut mieux leur apprendre à pêcher que de leur livrer un poisson tous les matins. Sinon, ils sont dépendants. Et c'est en cela que ça demande beaucoup d'amour. C'est que il faut énormément les aimer pour respecter leurs décisions, même quand ces décisions te vont à l'encontre de tes convictions.
Ouais, et ça, je pense qu'il y a plein de parents qui n'arrivent pas à le faire.
Évidemment.
Mais pas parce forcément que c'est de difficile. Manière égoïste, mais ne serait-ce que pour les protéger du risque qu'ils prennent.
Mais aussi pour les préparer au reste du monde.
Ouais.
C'est-à-dire que la notion de parent, elle est quand même assez éphémère. C'est-à-dire quand tu es parent, ton statut évolue dans le temps. D'abord, tu dois élever et transmettre, et ensuite, tu dois t'effacer derrière la personnalité de ton enfant. Tu ne dois pas absolument recopier ou transmettre ta personnalité dans celle de ton enfant. Ton enfant est une existence par elle-même.
Bien sûr.
Et donc, ton rôle de parent, il évolue avec l'âge de tes enfants. Mmh. Et c'est ça qui est difficile dans le rôle de parent.
Ouais.
C'est qu'au début, tu transmets beaucoup dans un schéma de conformité, et puis avec le temps, tu apprends à tes enfants à s'émanciper de toi-même en tant que parent.
Ouais.
Il va même falloir que tu apprennes à respecter leurs choix, alors que tu n'es pas forcément d'accord avec ces choix-là.
En sachant quand même que leur personnalité est le résultat de ton éducation. Donc il faut quand même savoir...
En partie.
En partie. Mais il faut quand même savoir quand s'arrêter.
C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile.
On pourra faire un sujet sur l'éducation, les gars.
Bah oui, comme on a tous des enfants,
ouais,
en plus.
On est tous très bien placés. Exactement.
Vous en parlez tellement bien que... Alors, mon chien, moi, je suis vraiment pour lui laisser faire des erreurs.
Est-ce qu'il est autodéterministe?
Ah oui, t'inquiète. Il pense pas à ma gueule quand il faut aller voir le copain et qu'il faut traverser la route. Hein. T'inquiète pas. Oh, purée.
Mais c'est intéressant. Et je pense qu'il y a une nécessité, une urgence même à dire aux gens, vous avez le droit de prendre vos propres décisions. Vous avez le droit d'être drivé par ce qui vous anime. Vous avez le droit de suivre votre voie.
Mais tout est fait pour qu'on ait le moins de choix à faire. Tout est fait pour que quand tu fasses des études, tu ailles en école supérieure et puis qu'après tu fasses ton stage et puis que tu fasses ton CV, t'as la conseillère d'orientation, tu croises les doigts dans ton stage, puis tu vas demander...
Je vais faire une parenthèse là-dessus. Je trouve fascinant de confier son avenir à un mec ou une meuf
ça, c'est exceptionnel.
Dont le job est d'être conseiller d'orientation, qui lui-même, s'il s'était bien orienté, ne serait pas conseiller d'orientation vraisemblablement.
C'est exceptionnel.
Donc je trouve ça fascinant. Mais bon, je vais encore me faire des amis, donc fin de la parenthèse.
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conseillers d'orientation qui écoutent le podcast.
Bah on sait pas.
C'est vrai.
Est-ce qu'ils ont voulu faire ça toute leur vie?
Envoyez-nous un mail.
Je suis pas sûr que tu sois conseiller d'orientation par vocation.
C'est peut-être une vocation.
Bah, non, objectivement. Parce que, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est une sorte de consultant, finalement.
C'est surtout quelqu'un qui te dit « Tiens, voilà le moins pire de tous les labyrinthes. »
Alors, j'ai raté mes études de psychologue.
En général, ils sont pas très modernes et ils encouragent pas tellement au risque.
Qu'est-ce qu'on t'avait conseillé, toi hein?
J'en ai jamais vu, je crois.
T'as jamais vu de conseiller d'orientation?
Non, c'est pas forcément obligatoire, je crois que tu vois pas. En tout cas, si j'en ai vu un, il m'a pas conseillé ce que je fais aujourd'hui, c'est sûr et certain. Non,
moi,
je crois que j'en ai jamais vu.
On m'a conseillé de faire un bac pro et après de voir, parce que si j'aimais bien l'automobile, peut-être travailler
mécanique.
Un peu. Voilà, le mécanique ou des trucs comme ça, voilà, c'était ça.
Mais
voilà.
En vrai, je pense que t'aurais été heureux un peu.
Ben non, parce que je lui ai demandé... Et je vous jure que c'est pas une blague quand tu dis ça, j'attendais un moment. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit. Et elle m'a pas su conseiller d'orientation, donc du coup je lui ai dit, j'ai aucun intérêt à vous écouter.
Oui, bah c'est vrai.
Je te jure.
C'est une juste analyse.
C'était une question con, tu vois, c'était pour comprendre. Mais ouais, non.
Est-ce qu'il y a des conseillers d'orientation qui conseillent de devenir conseiller d'orientation?
Je sais pas. Ça serait fou, ça.
Ça serait marrant, il y a peut-être un gars en France qui dit à tous les élèves, bon, conseiller d'orientation, ça me semble être la meilleure voie pour vous.
Moi, je pense qu'il faut accepter qu'il y ait une phase dans ta vie où tu sois justement désorienté.
Ok.
Même plusieurs phases. Donc, tu peux avoir plein de moments de doute, etc. Et c'est pas pour autant que...
Donc, qu'on t'apporte pas de réponse.
Le but n'est jamais d'apporter une réponse à quelqu'un. Le but est de l'aider à trouver la sienne.
Ouais, ok.
Mais c'est plus difficile. Ça demande de poser plus de questions que d'apporter de réponses. Quand quelqu'un vient te demander un conseil, ta grande tentation est de lui donner une réponse. C'est pas de lui poser des questions.
C'est vrai que c'est terrible parce que quand tu vas voir un psy, bon, je suis jamais allé en voir, mais j'ai l'impression que les psys te posent plus de questions qu'ils ne t'apportent de réponses.
Bah oui.
C'est-à-dire que c'est une aide pour que tu comprennes toi ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est assez fou que quand tu vas voir un conseiller d'orientation, il t'apporte une réponse finale.
Bah, parce que son job, c'est
d'apporter une réponse.
C'est de nourrir les filières.
Ouais.
Donc là, il manque un quota. Donc,
quelle horreur.
Moyenne, t'as pas l'air doué là-dedans. Tes moyennes, c'est ça. T'aimes pas les sciences, machin. Bah tiens, va faire BEP pâtisserie, quoi. Si tu veux. Non, c'est n'importe quoi, en fait. T'aimes pas la pâtisserie, bon, c'est pas grave, tu vas t'y habituer.
Alors, est-ce qu'on peut en conclure que qui que ce soit, un proche ou n'importe qui t'apporte une réponse concrète et de mauvais conseils?
Ben oui, parce que ça s'est fait avec son prisme à lui, avec son temps à lui, avec ses données à lui.
Je vais plus loin, moi, Léo.
Ouais.
Je pense que les gens qui t'apportent des affirmations, des certitudes, sont des gens qui t'aiment moins que ceux qui te posent des questions et qui t'aident à trouver ta réponse.
Non, c'est pas vrai ce que tu dis.
Moi, les gens qui m'ont le plus aidé... pas mal. Les gens qui m'ont le plus aidé, qui ont été les plus impactants dans ma vie ne sont jamais ceux qui m'ont apporté des réponses. Sont toujours ceux qui m'ont aidé à me poser les bonnes questions.
Et donc là, c'est pas forcément de l'autodéterminisme. Ça peut aussi être les questions qui t'orientent vers un choix.
Mais en tout cas,
mais ça le favorise.
Je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me guidait vers un résultat. J'ai eu le sentiment qu'on me posait des questions, même des questions contradictoires, tant et si bien que je ne savais même pas ce que mon interlocuteur essayait de me dire ou vers quoi il essayait de me guider. Ça avait un côté un peu frustrant.
Ouais, ok.
Ça me pose des questions qui sont complètement contradictoires, voire antagonistes, en fait. Et à la fin, tu ressors en te disant, bon, je me pose plein de questions, machin, mais enfin, je connais même pas son avis, il m'a rien dit. J'étais venu pour essayer de trouver des réponses et je repars avec plus de questions que de réponses.
Ouais.
Bah, c'est dans ces moments-là que j'ai le plus progressé.
Ok.
Et je pense que la meilleure façon... d'aider les gens et pour certains d'entre eux quand tu veux le faire d'aimer les gens, c'est de leur poser des questions, c'est pas de leur donner des réponses et de respecter les choix qui vont être les leurs.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Parce que j'étais persuadé que t'allais citer Orelsan.
Ah non, pas du tout.
Parce qu'il dit le meilleur moyen de régler une embrouille, c'est de poser des questions. Mais comme je t'ai vu sourire, j'étais persuadé que t'allais citer Orelsan.
Écoute tes conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront.
Voilà, par exemple, là, c'est bon. j'ai réussi mon pari. Il a cité Orelsan.
Mais ça va, je pense, aussi avec le fait que quand t'as de l'amour pour les gens, parfois t'acceptes des choses que eux trouvent géniales et que toi, tu trouves complètement débiles ou que tu ferais pas du tout comme ça. Par exemple, j'ai déjà eu beaucoup de fois la discussion avec ma sœur. Pour ma famille, quand ma sœur pouvait me dire « Non, mais là, je comprends pas pourquoi il fait ça, machin et tout. » Parce que ça lui ressemble. Parce que lui, il a envie de ça, il aspire à ça. Donc, il faut l'encourager dans ce truc-là. Parce que tant qu'il l'a pas fait de toute façon, et qu'il se plante pas, de toute façon, à part se dire que toi, t'es un gros connard parce que tu l'as empêché de faire ce qu'il voulait, machin, etc., ça ne marchera pas. Donc, il y a des moments où, et c'est là où je reviens à dire bah, « Pareil, c'était, bah, c'est pas dangereux. » Au pire, ça marche pas. Il a perdu 6 mois, il a fait un truc qui lui plaît, et puis voilà. Quand j'étais plus jeune, je faisais une grosse connerie, c'était de tout le temps dire la vérité et de donner mon vrai avis. Quand les gens me demandaient, tu sais, j'avais démarré YouTube, machin et tout, donc t'avais des gens plus âgés qui me disaient, ah, moi, je vais me mettre sur YouTube pour faire ça, ça, ça et ça. Et je leur disais, mais ça va pas marcher du tout, c'est de la grosse merde ton idée et tout. Et moi, j'avais l'impression de l'aider en disant ça, tu vois, pour lui faire gagner du temps. Et en fait, je me suis fait haïr à certains moments parce qu'il fallait
encore
juste. Que
aujourd'hui, hein,
encore aujourd'hui,
encore aujourd'hui.
À raison. Mais j'aurais dû les laisser faire. Alors, il se trouve qu'ils l'ont fait. Et vraiment, ça a pas marché. Et en plus, après, ils m'ont pris pour un con. Ils me disaient, oh, mais toi, de toute façon, t'as été méchant, t'as pas voulu m'aider, machin et tout. Et j'avais une discussion comme ça avec un proche qui me disait à ce moment-là, mais laisse-les faire, lâche le truc.
Ah oui.
De toute façon, ils te demandent, c'est pour être rassuré, mais ça, ça ne veut rien dire. Alors,
si tu veux vraiment aimer les gens profondément, c'est aimer le moindre de leurs défauts, c'est aimer leurs erreurs, c'est aimer leurs chutes. Aimer les gens, c'est les aider à se relever, c'est pas les empêcher de tomber.
Mmh. Oui, ce qui est sain, c'est de les laisser faire. Soit de les aider à améliorer leur idée avant qu'ils la concrétisent, soit les laisser chuter, et une fois que ça n'a pas marché, et bah leur dire peut-être pourquoi tu penses que ça n'a pas marché et comment ils auraient pu mieux le faire. Mais bien souvent, en fait, le problème, c'est que la plupart des gens, si tu les empêches de faire un truc et qu'ils t'écoutent, ils verront jamais le résultat et ils vont tout le temps avoir cette espèce de regret de dire putain, si lui il m'avait pas dit de pas faire ça, je l'aurais fait et peut-être que ça aurait lancé ma carrière. Donc il vaut mieux les laisser se casser la gueule et derrière tu les rattrapes.
Et peut-être qu'à l'inverse, vous êtes ce connard qui pense tout savoir, qui déballe ses idées de folie en soirée et qui nous écoutait là actuellement.
Et peut-être tout simplement que tu as tort en fait.
C'est
et
vrai.
Que le truc va cartonner et que tu vas te dire derrière putain, j'aurais jamais cru.
C'est vrai.
L'autodéterminisme, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'apprend et qui sur lequel tu dois t'entraîner un peu chaque jour. S'il y a peut-être une chose vers laquelle on peut un peu guider les gens, c'est d'apprendre à faire des sacrifices, d'apprendre à renoncer, parce que c'est véritablement ça, choisir. Et ta capacité à engranger des sacrifices, à comprendre à ce à quoi tu renonces chaque jour, c'est ta capacité à décider pour toi-même et par toi-même un peu plus tous les jours.
Merci les gars.
La bise.